Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de Radio Foot International en direct en cette soirée un peu spéciale.
Je déclare à présent la cérémonie du 64e Ballon d'Or France Football 2019 ouverte.
Une émission en fin de soirée pour évoquer cette soirée spéciale Ballon d'Or 2019, le magnifique trophée brillant de mille-feux qui vient d'être remis par France Football, le magazine qui inventa cette récompense en 1956. Eh bien, il vient d'être retransmis à... Il a été remis à Lionel Messi, Messi vainqueur du Ballon d'Or 2019. C'est le sixième de sa longue collection. Un génie inégalé de ce joueur qui impressionne toujours, qui régale toujours le public, notamment du Camp Nou, qui marque toujours plus et qui a séduit donc la majorité des 180 votants de par le monde. Vive Messi ! Sur le podium, avec lui, le grand défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, et Cristiano Ronaldo, troisième, suivent Sadio Mané et Mohamed Salah, trois joueurs africains dans le top 5, deux dans le top 5, trois avec Riyad Mahrez, qui termine lui dixième, le joueur, l'Algérien de Manchester City. C'est une première pour le palmarès du Ballon d'Or. Megan Rapinoe, capitaine des championnes du monde, incontestable Ballon d'Or féminin, du deuxième du nom, cette année 2019. La footballeuse à la chevelure rose, vous vous en souvenez, durant cette Coupe du Monde 2019 en France. Et puis, meilleur gardien de but, vainqueur de ce premier trophée, Lev Yashin, et bien le Brésilien des Reds, Alisson Becker. Le meilleur espoir, le prix Raymond Kopa, lui, était remis à Mathis De Ligt. Invité pour évoquer ces sujets qui font polémique, en tout cas sur les réseaux sociaux et aussi sur notre page Facebook de l'émission, eh bien, d'abord, il y a Gilles Verdez. Bonjour, Gilles.
Bonjour.
Il y a... Oula, c'est sec.
Non, pas du tout. Je suis toujours enthousiaste.
Bonjour, Naïm Moniol.
Salut, Annie. Salut à tous.
Notre ami d'Eurosport. Et puis, Patrick Juillard de Foot 365, Page Afrique.
Bonsoir, Annie. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous.
Alejandro Valente, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Vous êtes heureux?
Oui, bien, suppose.
Son petit protégé, là, à qui il avait remis le Ballon d'Or en 2009, eh bien, en 2019, il est toujours là et vous n'y êtes plus. Pourquoi?
Bah, écoutez, les
vous
temps
a oublié.
Passe,
il vous a oublié.
Mais c'est toujours le même plaisir.
Mais si. Radio Foot, c'est parti.
Merci. Oh my goodness!
Un petit tour de magie peut-être.
Léo Messi européen contre.
Il est très intelligent dans la manière de se positionner, dans la manière de protéger le ballon, donc c'est difficile de lui piquer.
Messi à l'entrée de la surface, il se met sur son pied gauche, sur son pied droit, maintenant la frappe
et sa patasso de Léo Messi.
Léo Messi, si, señor.
C'était donc le sixième sacre de Léo Messi pour cette soirée, hein, costume paillettes pour le monde du football réuni à Paris, au théâtre du Châtelet, dans le centre donc de la capitale française, pour assister à cette 64e remise du Ballon d'Or France Football, co-présenté par, eh bien, la légende du continent africain Didier Drogba. Un Ballon d'Or donc pour la sixième fois. Écoutons Lionel Messi, très sobre, hein, dans un costume cette fois sombre. Ombre, sans paillettes, sans nœud papillon qui soit original et qui fasse beaucoup parler.
Buenas noches. En todo este tiempo nunca dejé de soñar.
Il ne faut jamais cesser de rêver. Il faut toujours travailler. Il faut toujours s'améliorer. J'adore jouer au football, j'espère pouvoir continuer pendant longtemps, mais de toute façon, un jour, la retraite va sonner, ce sera difficile, mais je pense que j'ai encore de belles années devant moi.
Mesdames et messieurs, Lionel Messi, recordman du Ballon d'Or.
Lionel Messi et donc ses remerciements à 32 ans, la Pulga porte haut encore les couleurs du Barça. Ils d'ailleurs étaient venus très nombreux du club de Catalogne dans la capitale française. Lui qui joue donc dans cette équipe officiellement et professionnellement depuis 2006 en équipe A après 6 années d'apprentissage à la Masia de Barcelone. Alors messieurs, d'abord j'aimerais votre commentaire. Est-ce que c'est logique que Lionel Messi ait remporté ce soir un 6e Ballon d'Or?
Non.
Oui, non.
Non.
Non, pour Naïm Moniol, Patrick non, Juillard.
Pareillement, on peut, disons, trouver légitime, mais pour moi, c'est pas lui qui le mérite le plus.
Voilà. On va y venir aux arguments, Gilles.
Ah non. Ah non.
Bon, Alejandro Valente, on vous demande pas. Oui.
Largement mais.
Il m'a fait un regard quand j'ai dit non. Je peux quand même taper.
Alors, allez, honneur à ceux qui ont dit non. Après, on défendra évidemment ce grand joueur et ce joueur de légende. Naïm, pourquoi non?
Parce que on n'est pas en train de... Je préfère préciser tout de suite, parce que je vois les messages qui arrivent sur Twitter. Messi est un joueur exceptionnel, immense, qui a un talent fabuleux, qui est peut-être le meilleur de sa génération, de
et
l'histoire.
Et qui le maintient à 32 ans quand même.
Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui est très gênant, c'est que ces récompenses ne sont que des récompenses individuelles. Ce sont des statistiques de très très haut niveau, mais ce sont des statistiques individuelles. Et à partir du moment où on ne peut pas comparer les championnats, on ne peut pas comparer la Liga où il y a un club l'année dernière qui a tout dominé. En Angleterre, ils sont 4 ou 5 à se disputer les 4 premières places. Il faut regarder sur autre chose, sur la Ligue des Champions, sur les compétitions internationales. Et sur la Ligue des Champions et les compétitions internationales, Lionel Messi, au regard des critères de France Football, on va en discuter, ne le méritait pas plus que Sadio Mané.
Patrick.
Oui, je suis d'accord et je trouve que Lionel Messi a profité de l'ambiguïté justement de ces critères, puisqu'il y a 3 critères principaux selon lesquels...
On va y
lesquels,
venir à ces critères.
Bah, donc si vous voulez que je vous donne mon sentiment, je partage l'avis de Naïm, c'est-à-dire que oui, les stats, si on donne des stats pour le meilleur tireur de coups francs, si on invente des stats toutes les semaines, Messi va être numéro 1 partout. Maintenant, si on regarde... l'apport du joueur au collectif et le palmarès, à part sauver souvent le Barça de déroute par son seul talent et pour masquer les failles du Barça, Lionel Messi n'est pas dans une saison pleine au niveau collectif et donc ne mérite pas en premier lieu ce Ballon d'Or, même si ses stats font que c'est un des meilleurs joueurs de la saison, mais pour moi, c'est pas lui qui mérite le plus ce Ballon d'Or.
Gilles.
Bah, moi, j'ai une pensée pour tous les Africains qui nous écoutent. Et pour moi, je réponds clairement à votre question, Messi ne mérite pas le Ballon d'Or parce qu'un seul joueur le méritait, c'est Sadio Mané. Et qu'il soit quatrième, c'est vraiment un scandale. Et moi, ce que je voudrais dire, et ça n'engage que moi, c'est que le vote de ce soir, c'est un vote sur la couleur de peau. C'est aucun critère.
Gilles, Van Dijk est deuxième. Van Dijk est deuxième.
Van Dijk est deuxième. Ça veut dire qu'un Africain ne peut plus aujourd'hui.
Non, mais alors, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, c'est à voir plus ou plutôt avec les sélections, ça a à voir avec peut-être les clubs aussi qui mettent pas en valeur.
N'oublions pas qu'il y a des Africains qui votent.
J'entends votre argument.
On va y venir aussi sur le panel de votants.
Donc, je vous réponds. Pour moi, il y avait un seul Ballon d'Or, c'est Sadio Mané.
Alejandro Valente, si on regarde Messi, effectivement, on entend les critiques, mais ce qui a été récompensé selon vous cette année, il ne l'avait pas gagné depuis 2015. Et c'est sa 6e fois qu'il le gagne. Pourquoi est-il récompensé, selon vous, par ce nombre de 180 journalistes, hein? Alors, la majorité, bien sûr, ou en tout cas ceux qui l'ont élu premier.
Ben, je pense que, justement, le fait que Barcelone n'ait pas réalisé une saison exceptionnelle et que ce Barcelone-là ne soit pas comparable au Barcelone de 2009, de 2010, lorsqu'il avait gagné ses premiers Ballons d'Or, ne fait que rehausser la qualité de sa performance. 10 ans après avoir gagné son premier Ballon d'Or, trouver un joueur qui est capable de se surpasser à ce point, de porter cette équipe où il l'a portée et de réussir les performances individuelles qu'il a réalisées, pour moi, c'est tout simplement exceptionnel. Et je pense qu'on vit aujourd'hui un moment un peu historique, parce qu'on n'avait jamais vu un joueur gagner 2 ballons d'or à 10 années d'écart, et ça montre combien ces joueurs a su se réinventer et se surpasser pour réussir cette performance. Évidemment, j'ai une pensée pour Sadio Mané et pour tous les autres Africains. Ici à RFI, on souhaite tous qu'un jour un Africain puisse à nouveau recevoir un ballon d'or. Mm-hmm. Mais je pense que cette année, la victoire de Messi est logique.
Alors logique, en tout cas, rappelons le palmarès juste pour cette année 2019 de Lionel Messi, parce que il est quand même très impressionnant. Il est champion avec l'équipe de Barcelone de la Liga et c'est la 10e fois que cette équipe est championne d'Espagne. Il est aussi meilleur buteur européen. Il a reçu le soulier d'or. Il a marqué 36 buts en 34 matchs.
C'est juste une récompense individuelle, c'est pas un titre.
Non, je parle de son palmarès, voilà. C'est des récompenses qui ont sans doute justifié ça. Donc, le soulier d'or, c'est 36 buts en 34 matchs. C'est le meilleur buteur des championnats européens. Ensuite, on a le meilleur buteur donc de la Ligue des Champions. Il a marqué 12 buts en 10 matchs. Il a été demi-finaliste de cette Ligue des Champions, demi-finaliste de la Copa América, et il avait remporté The Best avec Van Dijk et Cristiano Ronaldo qui le suivaient aussi sur le podium. Et c'était début septembre le prix FIFA, bien sûr, de meilleurs joueurs. On évoquait les critères. Eh bien, venons-y à ces critères. Les trois critères qui sont exigés des votants, ce sont performance individuelle et collective sur l'année, avec éventuellement un certain palmarès. La classe du joueur, talent et fair play, c'est précisé.
Ce qui ne veut rien dire.
Et puis, la carrière du joueur. Avant qu'on en vienne sur le développement de ces critères, une chose, qui vote ? Il y a eu à peu près 180 votants, Alejandro Valente.
Absolument, c'est un journaliste qui est choisi parmi les
nations affiliées à la FIFA.
Le plus représentatif de chaque pays, et donc chacun émet un vote.
Un journaliste sportif.
Un journaliste sportif, évidemment, spécialisé dans le football. Donc, par exemple, en France, il n'y a qu'un seul votant, c'est le directeur de France Football.
Un seul journaliste français.
Et c'est un seul dans chacun des autres pays. Après, il y a toujours des pays où les votes n'arrivent pas pour des raisons diverses. Et c'est pour ça qu'on a moins de votants que des pays affiliés à la FIFA.
Mais en tout cas, il y avait, selon ce qu'on sait, 180 votants à peu près sur 200 et quelques, je crois que c'est 204 ou 205.
176, c'est ça
Fédéré, dans la FIFA
votants.
Dans la votance.
Mais au total, il y en a un peu plus de 200.
Un peu plus de 200, le nombre de nations. Alors, sur les critères, avant qu'on revienne évidemment sur la personnalité de Messi, mais... Gilles, il y a des critères quand même précis, donc effectivement, Messi les remplit, ces critères-là.
Mais bien sûr, Messi remplit tous les ans l'ensemble des critères, Annie. Là-dessus, on est d'accord. Je rejoins Naïm. Tous les ans, vous pouvez accorder le ballon d'or à Messi, tellement il est prodigieux et tellement c'est un joueur qui aura marqué l'histoire, un des trois plus grands peut-être de toute l'histoire du football. Moi, ce qui me gêne, c'est sur la saison. Le ballon d'or, là, pose un vrai problème. C'est-à-dire que si on remet le ballon d'or au meilleur joueur de foot, c'est Messi tous les ans, ou Cristiano Ronaldo, selon leurs adversaires.
On peut supprimer la récompense et la remettre d'office.
Si on met au meilleur joueur de la saison, je vous le redis, pour moi, c'est pas Messi, c'est Sadio Mané. Et qu'il soit quatrième, pour moi, pose un vrai problème de crédibilité à l'ensemble du ballon d'or.
Je suis d'accord avec Gilles, et pour moi, le problème vient des critères, justement. Quand vous confondez dans un même sur le même la même ligne,
mais les critères ça n'a pas évolué, toujours été pareil.
Oui, mais ils sont de moins en moins lisibles quand même.
Performance individuelle et collective. Déjà, on peut être une immense individualité, avoir réussi des stats exceptionnelles et ne rien avoir gagné collectivement.
Oui, absolument.
Bon, et inversement, on peut être un formidable joueur de collectif. Je pense à des joueurs comme Andrea Pirlo qui a eu un palmarès énorme, mais avec des prestations individuelles en termes de gestes et de faits marquants qui sont pas très élevés, qui marquent pas autant qu'un attaquant qui met des triplés à tous les matchs. Donc ça, déjà, confondre les deux choses sur la même ligne, dans le même critère, est une erreur. Et ensuite, que veut dire classe et talent et fair play ?
Ça veut rien dire.
Ça devient subjectif.
Que d'abord il faut comprendre un truc, c'est que quand on parle de prestations collectives, de titres gagnés, des championnats ou des coupes nationales, on n'est pas dans le même niveau de championnat. On n'est pas dans le même niveau entre en Espagne et en Angleterre, ou alors aux Pays-Bas.
Mais non, Annie.
À partir du moment où vous n'avez pas le même niveau des championnats, vous ne pouvez pas mettre les joueurs à égalité. Premièrement, on juge le talent des joueurs.
Depuis 1956, à l'époque, c'était pas aussi polémique et les championnats étaient complètement différents.
Oui, mais les championnats. Attends, il y a
Naïm, les ballons d'or récompense est subjective par nature. Ouais. On peut pas, on dit pas gagner la Ligue des Champions, ça vaut tant de points, etc.
Bah, gagner la Ligue des Champions, ça a quand même le mérite de mettre les joueurs de tous les championnats dans la même compétition et de juger sur le niveau des uns et des autres. On ne peut pas juger un championnat d'Espagne où le Barça met 10 points d'avance au Real à un championnat d'Angleterre où vous savez très bien que vous allez avoir deux équipes qui vont finir à plus de 90 points. C'est pas faisable.
Naïm, de toute façon, on sait bien qu'il y a 5 grands championnats en Europe qui comptent pour les joueurs et qu'on n'ira jamais chercher un joueur dans un championnat d'Ukraine ou de Roumanie.
C'est pas qu'il y a 5 grands championnats qui dominent, parce que la France ne domine rien du tout. Il y a 3 ou 4 clubs qui dominent le monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait le fameux critère de la carrière, sachant qu'il y a 3 ou 4 clubs qui, chaque année, les deux Espagnols, les deux gros Anglais, peut-être la Juve de temps en temps, qui dominent un peu le truc, c'est-à-dire que le Ballon d'Or ne va se jouer qu'entre ces clubs-là. Et quand, dans ces clubs-là, vous n'avez finalement qu'un ou deux.
Jouer pas entre ces clubs-là avant et que maintenant ça change.
Ça a rien à voir, c'est-à-dire qu'avant,
parce que les temps ont changé. Mais c'est ça.
Il y a eu moins de courses à l'armement, de concentration financière. Ouais. Et une année, Anderlecht pouvait gagner la Coupe d'Europe
des clubs champions. Chaque championnat est gagné pratiquement toujours par les mêmes équipes ces temps-ci.
Alors là, les clubs moyens pouvaient gagner.
Ça correspond aussi à ce que sont devenus les championnats.
On parle du vainqueur, mais globalement, ces critères-là, vous pouvez les appliquer sur l'ensemble du classement. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un joueur de l'Ajax dans le top 10 parce que le championnat hollandais est nul. Non mais si, comment se fait-il que Kylian Mbappé termine devant Lewandowski? Comment ça se fait qu'on met Bernardo Silva Mahrez dans le top 10 qui n'est pas De Bruyne? Ou alors on est totalement franc et alors le vote s'arrête au mois d'août.
Non, mais on peut se raconter n'importe quoi, mais la vérité c'est qu'on sait tous quelle est la raison pour laquelle aucun joueur de Liverpool n'a été récompensé.
Oui, parce qu'il y a l'émiettement des votes.
C'est qu'ils se sont bouffés entre eux, il y avait trop de candidats.
Comme l'année dernière pour la Coupe du Monde.
En collectif, l'année dernière c'était pareil pour l'équipe de France.
Et on peut aussi expliquer pourquoi Lionel Messi et Ronaldo gagnent toujours les ballons d'or, c'est parce que ce sont des produits qui vendent des millions dans le monde.
Oui, parce
c'est exactement ça.
Ce sont des joueurs qui peuvent porter une équipe en fait, bien au-delà de sa qualité.
Si on va sur juste une incise sur Sadio Mané, en fait, il est effectivement victime de l'émiettement des voix, du fait qu'il a moins d'aura et de charisme peut-être que des stars planétaires comme Messi ou Cristiano Ronaldo, et puis de justement, on en a parlé, du flou des critères.
On va tout de suite se diriger bien au Théâtre du Châtelet où nous attend l'envoyé spécial de RFI au centre de Paris. Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci Antoine d'être en direct avec nous. Racontez-nous un petit peu votre soirée du Ballon d'Or. Est-ce que vous avez touché le Ballon d'Or ou au moins approché le sixième lauréat du même trophée, Lionel Messi?
Bah écoutez, il y avait entre lui et moi, mon bras et une quinzaine de journalistes espagnols. Ils étaient venus en nombre, les journalistes d'Espagne, comme s'ils avaient eu vent de quelque chose,
oui.
On ne sait pas, peut-être.
Ça faisait la une de Mundo Deportivo aujourd'hui, effectivement.
Exactement. Et cette cérémonie, au final, sera passée très très vite, contrairement à la cérémonie de l'année dernière, qui avait été absolument interminable au Grand Palais, où on ne savait plus trop ce qu'on faisait là au bout d'un moment. Là, c'est une cérémonie qui a été très ramassée, qui est allée vraiment très très vite. Et Lionel Messi, il est passé tout aussi vite en zone mixte. Il s'est arrêté à deux endroits et ensuite il a été exfiltré très très rapidement. Retour à Barcelone, il avait peut-être hâte de fêter son sixième titre, sa collection qui s'agrandit.
Oui, on a vu tant à son surtout à son arrivée, Antoine, beaucoup de cris pour l'appeler, l'encourager, des gens qui essayaient de faire des selfies. C'était une des vedettes ce soir quand même de cette soirée, même pour les gens qui ne connaissaient pas encore le résultat.
Bien sûr, c'était clairement la vedette. D'autant que Cristiano Ronaldo n'est pas venu, que Sadio Mané non plus. Il y avait un certain nombre de joueurs qui avaient décidé de sécher. Lui, Messi, il était là. Bon, il savait qu'il recevrait le ballon, donc ça l'avait certainement motivé à faire le voyage. Mais les gens sont venus très tôt pour voir Lionel Messi. Dès 4h, lorsque je suis arrivé aux alentours du Théâtre du Châtelet, il y avait déjà des gens qui s'amoncelaient un peu autour de ce grand barnum qui avait été dressé devant l'entrée du théâtre. Un barnum transparent, d'ailleurs, pour que, au moment où les joueurs passe, les gens puissent les voir et les acclamer. Clairement, parmi, il devait y avoir 300-350 personnes qui s'étaient massées là malgré le froid, hein, ils étaient courageux. Même Lionel Messi est celui qui a reçu vraiment le plus d'ovations. Il faut dire que c'était la star de la soirée. Les rumeurs avaient fuité comme quoi c'était le nouveau Ballon d'Or, donc les gens voulaient aussi voir ce Ballon d'Or là. Il faut remarquer aussi que Didier Drogba a été relativement vraiment acclamé à son arrivée. Il est arrivé très détendu. D'ailleurs, Didier Drogba, qui était maître de cérémonie, il a été acclamé, comme quoi les Parisiens apprécient quand même les anciens Marseillais, surtout quand c'est des anciens Marseillais.
Une question encore, Antoine, comment vous est apparu Lionel Messi quand il est sorti de cette cérémonie et qu'il est passé devant vous, même rapidement? Est-ce qu'il avait l'air ému? Est-ce qu'il avait l'air heureux? Ou est-ce que pour lui c'était un de plus sur sa cheminée?
Ah, écoutez, mon espagnol est assez mauvais, mais j'ai quand même compris le mot alegría. Voilà, donc la joie. Il était content d'avoir reçu ce ballon d'or. D'ailleurs, il y avait toute une petite mise en scène hein, quand il l'a reçu. Il avait une chaise de réalisateur de film pour regarder sa femme et ses enfants lui dire à quel point il l'admirait et l'aimait. Mais si, il est apparu, voilà, souriant. Il est apparu, au final, comme un habitué. Voilà, je l'ai gagné 5 fois, je l'ai gagné une 6e. Je suis content, mais ça avait certainement un petit peu moins de saveur pour lui que son premier ballon d'or. Et puis je vais vous dire, il est passé tellement vite devant les micros des journalistes, et ça a été tellement la foire d'empoigne pour réussir à s'approcher de lui, qu'on aurait eu du mal à dire s'il était ému, heureux ou vraiment tout simplement, on va pas dire déçu, hein, parce qu'il a gagné, mais voilà, dans un état d'esprit normal. Non, on l'a vu souriant, c'est déjà ça, mais on l'a pas vu longtemps.
Merci beaucoup Antoine Grenier d'avoir été en direct avec nous dans l'émission Radio Foot International, et bonne fin de soirée pour vous du côté du Châtelet. Merci beaucoup. Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose au sujet. On en était aux critères de tous ces choix. On en était à ce classement. Alors, Lionel Messi, évidemment, c'est un immense joueur. Immense. Ce qu'on conteste, c'est que, enfin, ce que vous avez l'air, en tout cas, de critiquer ici autour de la table pour certains, c'est le fait qu'ils le reçoivent encore. Mais finalement, il a 32 ans et on voit que dans les championnats, il a encore fait gagner son équipe hier.
C'est absolument incroyable. Oui, il y a clairement une volonté pour moi de France Football de faire entrer Messi dans l'histoire.
Bien sûr,
et je ne conteste pas ça du tout.
Évidemment.
Le 6e ballon d'or, comme le disait le chef, c'est historique parce qu'il devance maintenant Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. On voit pas très bien comment celui-ci pourrait le rattraper. Donc Messi sera le joueur du siècle pour France Football et pour le ballon d'or.
Et lui, on fait une campagne de dingue.
Voilà, moi, ce qui me dérange, on savait que ce ballon d'or serait polémique. C'était sûr, d'accord. Moi, ce qui me dérange, je vous le redis, c'est que toujours. Il y a des années où un peu moins. Il y a des années où là, ça l'était.
Un peu plus d'unanimité.
Moi, ce qui me dérange, c'est le classement. Le classement, pour moi, il bafoue le football. Et le classement, pour moi, d'un joueur africain 4e, je vous le répète, c'est une honte.
C'est un classement fait des votes des différents pays.
Mais chef, alors, j'accuse les journalistes de voter au nom de la couleur de peau et pas de critères.
Mais non,
mais vous savez très bien que oui.
C'est pas la couleur de peau, Van Dijk, il est pas blanc, Gilles, s'il te plaît. Bon, arrête, il y a des Africains qui votent. Arrête, mais non, là, tu vas loin, Gilles. Là, c'est de la diffamation, arrête, tu vas trop loin, Gilles.
Diffamation de qui?
Diffamation, tu les accuses d'être racistes. Ne dis pas ça, c'est pas vrai, on peut les accuser d'être des escrocs, mais pas d'être racistes.
Je dis que la couleur de peau a été un critère du vote cette année pour que Sadio Mané soit 4e.
Mais non.
Mais il n'y en a pas d'autres, Annie.
Mais Gilles.
Qu'est-ce qui justifie sa
4e place? C'est pas possible. Il peut y avoir plein de critères, mais notamment, de toute façon, il y a 180 ou 176 personnes qui votent. Et il y a énormément d'Africains. Il y a aussi des Africains qui ont la parole. 54 des votes viennent du continent africain.
Du continent africain n'auront pas mis Mané dans les trois premiers.
Vous le verrez. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer.
Alejandro, précisons-le à nos auditeurs quand même, mais pendant longtemps, vous avez travaillé aussi pour le magazine France Football, donc c'est pour ça que vous connaissez bien les rouages de ce prix.
Il y a des votants sur tous les continents, des votants pour qui la réputation d'un joueur est très importante et peut-être aussi importante que la performance dans l'année.
Et l'admiration qu'il suscite.
Je pense que pour un joueur comme Sadio Mané, c'est moins la couleur de peau. Je ne crois pas du tout à la couleur de peau, mais je pense que le fait d'avoir comme maillot d'équipe nationale le Sénégal, un pays qui n'a jamais réussi au-delà de 2002 sur la scène internationale, ça apporte un handicap à ces joueurs, comme ça a été le cas pour Mo Salah ou pour d'autres joueurs. Et les joueurs qui viennent des pays comme l'Allemagne ou la France ou l'Argentine ou le Brésil ont en plus parce qu'ils sont portés par la réputation de leur équipe nationale.
Et puis tu sais ce qui est très rageant
et du football de leur pays et aussi d'une façon générale des autres grands joueurs.
Sur cette édition 2019, ce qui est frustrant, rageant et incompréhensible pour vraiment parler de ces critères, c'est que l'année dernière, on a choisi Modric devant Ronaldo par rapport aux critères. Parce qu'on a mis fin à l'hégémonie Messi-Ronaldo sur les critères. Cette année, on refuse le ballon d'or à Messi, à Mané pour le donner à Messi, sur ces mêmes critères.
En faisant le choix inverse.
En faisant le choix inverse. Alors qu'il est exactement dans la situation de Modric l'année dernière. C'est ça qui est illisible et incompréhensible. C'est ça que je pointe du doigt quand je parle de l'illisibilité des critères.
Il y a une différence quand même. Alors, je suis d'accord sur le choix. Modric était typiquement un peu l'homme normal au milieu des stars, mais qui était désigné Ballon d'Or parce que c'était tout simplement le meilleur palmarès de l'année, le joueur le plus régulier qui le méritait.
Non, c'était pas le meilleur palmarès de l'année, justement.
Oui, c'était Varane.
Ça n'était pas. L'année dernière, on a vécu un peu ce que vit Liverpool cette année, c'est-à-dire que c'était les champions du monde.
Voilà.
Il y en avait plusieurs sur la liste, il y avait un évignettement des voix, mais on en avait parlé. Modric n'était pas champion du monde, par exemple.
Liverpool ne pouvait pas faire campagne ouvertement pour un ou l'autre de ses joueurs parce que ça aurait risqué de briser un petit peu l'unité collective. Alors que, par exemple, quand l'Italie avait fait campagne pour Cannavaro, parce que l'Italie venait d'être championne du monde, ça risquait rien de choisir un joueur.
Justement,
donc ça n'a pas non plus, l'émiettement n'a pas servi Sadio Mané.
Patrick, on a cette interview qu'a donnée récemment Jürgen Klopp, il y a 2-3 jours, qui est un peu mystérieuse. On va l'écouter parce que justement, il était très ambigu sur le choix du joueur qu'il fallait théoriquement récompenser selon lui.
Si vous pensez que le Ballon d'Or doit aller au meilleur joueur de cette génération, eh bien il est pour Lionel Messi, comme presque toujours. Mais s'il est plutôt pour le meilleur joueur de la saison dernière, alors il est pour Virgil van Dijk. Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les votes, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Nous verrons bien.
Comment on peut comprendre cette déclaration de Jürgen Klopp qui dit donc le meilleur de sa génération pour moi c'est Messi mais le meilleur de l'année c'est Van Dijk.
Ah, il a entériné le classement qu'il avait à ce moment-là.
Mais il a combien de joueurs là sur la liste?
Il savait que c'était pas Liverpool et comme il savait que Van Dijk était juste derrière, il a tenté de minimiser le truc. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il veut pas de fissures. Il essaye de dire
il savait ça.
Bien sûr.
Ah bah oui, bien sûr.
Et quand il répond, il savait la réponse.
Oui, bien sûr. Il met Van Dijk parce que il sait que Van Dijk est deuxième. Donc a posteriori, on dira il avait raison. S'il avait dit c'est Messi devant Sadio Mané, Van Dijk irait le voir demain en lui disant dis donc coach,
tu m'as sous-estimé là. Voilà. Ouais. Bien sûr, non, je suis d'accord avec cette analyse. Klopp savait exactement où en étaient ses joueurs au classement. Il a fait sa déclaration pour être en cohérence avec ça et dire regardez, je vous l'avais bien dit, je savais que ce serait lui le mieux classé, que donc c'était lui le meilleur sur la saison. Bon, c'est une question aussi de peut-être choisir un défenseur pour alors qu'on parle toujours de son trio offensif. Peut-être c'est une vision un peu collective des choses.
Oui, en tout cas, c'est ça aussi peut-être, Alejandro, qui est étrange, c'est que on en a beaucoup des joueurs hein, de Liverpool sur cette liste, et il y en a quand même 3 dans les 5 premiers. On a donc Van Dijk deuxième, Mané quatrième et Salah cinquième. On a Alisson Becker, si on veut rajouter un pour Liverpool, qui est septième. On reproche finalement un des critères, c'est de porter une équipe collectivement. Pour le joueur qui est récompensé. Et là, on dit, bah non, de toute façon, ils sont tellement collectifs, Liverpool, qu'il n'y a pas une star meilleure qu'une autre dans cette équipe. Ah oui. Enfin, un joueur plus star que l'autre.
La seule solution serait de dire, on met un seul joueur de Liverpool à ce moment-là. Et ce serait arbitraire aussi.
Oui, parce que la liste des 30, de toute façon, c'est pas le club qui l'établit.
C'est ce qui est arrivé, effectivement, à la France quand elle a été championne du monde, à l'Espagne.
À l'Espagne en 2010.
Quand elle a été championne du monde.
Et à l'Allemagne aussi, en 2014.
À d'autres équipes très fortes qui gagnent par la force du collectif où une individualité ne marche pas. Mais de tout temps, quand vous reprenez tous les classements, on a eu à chaque fois le débat sur le rôle de l'individu et le rôle du collectif. Et selon les saisons, selon les votants, etc., ça a plus ou moins pesé. C'est ça qui est compliqué.
Il y a aussi pour moi un problème de souvent, surtout depuis que le Ballon d'Or a fait un tour dans le giron de la FIFA, puisqu'à une certaine époque, ce n'était plus France Football qui le remettait. La FIFA avait favorisé des critères vraiment sur la carrière globale du joueur et pas uniquement les performances de l'année, ça avait été en défaveur de joueurs un petit peu moins charismatiques. Et c'est pour ça que Iniesta n'a pas eu le Ballon d'Or. C'est pour ça que, alors qu'il le méritait, c'est pour ça que Schneider, cette même année, aurait pu faire un beau vainqueur, ne l'avait pas eu. Pour ça que Pirlo ne l'avait pas eu. Pour ça que Ribéry ne l'avait pas eu.
Il ne faut pas minimiser non plus le rôle des réseaux sociaux qui quand même pèse sur le... sur enfin, les sur les
2010,
votants, quand même.
En 2010,
il y avait moins de poids quand même qu'aujourd'hui.
Maintenant.
En 2010, il y avait un peu moins de poids qu'aujourd'hui.
Ah, mais des aujourd'hui, réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tous les sondages qui étaient faits donnaient Messi vainqueur depuis des semaines. Donc, je pense que ce sont des choses qui pèsent un petit peu.
Non, mais
peu
ça,
sur,
c'est certain.
Oui, mais le vote était déjà clos. Donc, de toute façon,
oui,
depuis.
Mais même avant que le vote soit clos, et c'est certain. Et puis, le fait que Messi ait gagné le prix FIFA, oui. ça influe aide. Aussi psychologiquement oui. sur les sur certains jurés.
D'où se poser la question pourquoi on multipliait autant les récompenses individuelles.
Bah parce qu'on avait unifié et puis que les instances.
Oui, mais l'UEFA a créé le sien
oui,
aussi.
Oui, mais ça c'est l'ère de la surmédiatisation où il faut exactement. Créer des prix, des cérémonies. Et on voit que là, au Ballon d'Or, tous les joueurs ne viennent plus, alors qu'avant tous les joueurs du podium venaient. Et là, tous les joueurs ne viennent plus. C'est quand même un coup.
En tout cas, il y avait 5 joueurs africains dans cette liste des 30 joueurs possibles et. Eh bien, justement, arrêtons-nous sur ces 5 joueurs parmi les 30 et voyons leur classement.
Mahrez.
And scores in the corner. Riyad Mahrez.
Lo spagnolo cerca Koulibaly. Kalidou Koulibaly.
Voilà ces 5 joueurs. Et alors, si Kalidou Koulibaly est 24e de ce classement, le défenseur sénégalais de Naples, ensuite, eh bien, on se retrouve finalement avec Pierre-Emerick Aubameyang 20e, le Gabonais d'Arsenal. Et ensuite, on a quand même 3 joueurs dans les 10 premiers. Et c'est la première fois, on s'est penché sur les archives Patrick Juillard, c'est la première fois qu'on a 3 joueurs. Alors, je les cite, Riyad Mahrez, l'Algérien de Manchester City, est 10e. On a ensuite Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool, qui est 5e, et Sadio Mané, qui est 4e. Alors, ouais. Malgré tout, les joueurs africains se sont glissés dans le top 10. Ils sont 3 sur 10.
C'est la puissance de la Première Ligue, puisque ces joueurs-là, deux de ces 3 joueurs ont déjà été élus meilleurs joueurs de Première Ligue par tous les joueurs de la Première Ligue. Là, c'est un vote
aussi significatif.
Ils sont élus par leur pair et non pas par un jury quelconque. Donc ça, déjà, ça montre que certains joueurs africains arrivent à devenir ce qu'on appelle des top players, pour parler comme les Anglais, en Première Ligue, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, on voit quand même que la CAN est prise en compte. Contrario pour Mané, c'est grâce à la CAN que Mahrez est dans le top 10. Parce que sur les 6 premiers mois de l'année, il est le plus souvent remplaçant. Il a un temps de jeu limité à Manchester City. Il fait un bon début de saison et une CAN où il propulse son équipe vers le titre
c'est
en étant décisif.
C'est peut-être la CAN qui l'a plus servi.
Et donc, ça montre que la CAN, quand un joueur vraiment... Et au-dessus du lot, elle peut influencer comme la Copa América peut le faire lorsqu'un joueur survole cette compétition. Et à contrario, alors Sadio Mané qui fait pas une mauvaise CAN, mais on peut pas dire qu'il ait transcendé son équipe. Et peut-être que s'il avait fait une meilleure CAN, qu'il avait donc clairement conduit le Sénégal au titre,
à la victoire,
ce qui était pas loin, je pense qu'il aurait été beaucoup plus haut. Mais alors ça n'explique pas tout, évidemment. Je pense qu'il pouvait même mériter le Ballon d'Or sans cela, mais ça explique une partie.
La CAN, c'est le calendrier aussi qui l'arrange, parce que maintenant au mois de juillet, c'est quand même beaucoup mieux qu'au mois de février.
Elle est plus visible.
Deuxièmement, la Première Ligue, oui, mais c'est surtout qu'ils jouent avec des entraîneurs qui jouent au foot. Ce sont les meilleures équipes. Manchester City, Liverpool, Club Guardiola, ce sont des équipes qui jouent au ballon. Puis il y a quand même un troisième critère qu'il faut dire, c'est que sur les c'est pas qu'il y a plus d'Africains aujourd'hui qui sont plus forts aujourd'hui.
Ah non, mais c'est dans les. Juste,
oui,
clairement, dans les 10, il y en a 3, il n'y en avait jamais eu 3.
C'est qu'à une époque, ils étaient aussi clairement sous-estimés et beaucoup de joueurs auraient mérité des classements bien supérieurs qu'étaient le leur à l'époque, sauf qu'on les prenait un petit peu moins en considération.
À Yaya Touré.
À Yaya Touré notamment. Donc voilà. Et c'est aussi un juste retour des choses de retrouver les joueurs africains à ce niveau.
Bah, le meilleur classement qu'il y avait eu, c'était il y a plusieurs années, c'était.
Drogba était 4e.
Voilà. En 2006 et en 2009, on avait eu 2 Africains dans le top 10 et c'était Eto'o et Drogba.
Vous me permettrez juste de dire que je vous trouve enthousiaste et aussi un tout petit peu naïf. Si on a 3 Africains dans le top 10, c'est parce qu'on a voulu les évincer du podium. Donc on leur donne un lot de consolation. Vous êtes trois dans le top 10.
Vous êtes quand même dans la théorie du complot total, là, Gilles.
Évidemment, mais ne soyez pas naïfs. C'est un vote orienté. En espérant que l'Afrique ne se rebelle pas face au Ballon d'Or. Mais il n'y a pas d'autre explication, Annie. Vous êtes trois dans le top 10. Calmez-vous, non, mais, c'est déjà non, bien. Non,
Gilles,
c'est très mal.
Gilles, quand même, il y a un truc qui est incontestable. On adore Sadio Mané, mais ça, la fameuse demi-finale contre le Barça, c'est pas lui qui porte
c'est
Liverpool
vrai.
Pour se qualifier. Ah bah c'est, et il fait pas une grande finale
c'est,
non plus.
Mais c'est pas Messi qui porte le Barça en finale.
Les 3-0 du match aller, c'est Messi.
Chef, il obtient le pénalty de la finale. Sadio Mané.
Surtout, il est champion d'Europe, Alejandro.
Oui, alors ça, mais on peut dire que dans ces matchs que tout le monde regarde, oui, Messi, ça n'a pas été ses meilleures
prestations. Messi ne l'a pas gagné. Et puis n'oublions pas qu'il a été expulsé en Copa América quand même, Alejandro, Lionel Messi.
Il a été expulsé.
Mais Arianos, qui a un critère qui s'appelle fair play, en fait.
Absolument.
Qui a fait perdre
certains
joueurs.
Mais on a reconnu que son expulsion avait été injuste.
Vous avez réponse à tout. Non, mais Gilles.
C'était trop bon pour moi.
Gilles,
je sais. Ça, Annie, j'ai
trouvé. Non, mais il faut quand même dire une chose, Gilles, c'est que les votes, on sollicite les votes et en fait après ils sont envoyés à Paris, là ils sont enregistrés et il n'y a pas de manipulation des votes.
On en fait ce qu'on veut, Annie, d'un
non,
vote,
non, non.
Mais,
non, je vous assure
classe,
que non.
Y
a pas c'est,
mais non, mais tous nos confrères disent que c'est complètement secret,
contrôlé.
Que c'est complètement...
J'en dirais pas plus que ce que je pense, mais c'est évident, c'est évident.
Certains disent c'est un vote politique.
Moi,
absolument.
Après,
je suis d'accord totalement.
Certains de nos auditeurs internautes.
Je suis totalement d'accord avec eux.
Je suis
politique.
D'accord avec vous sur le point, Gilles, que Sadio Mané méritait le Ballon d'Or et je regrette comme vous qu'il ne l'ait pas eu. Ça, on se rejoint. Par contre, je vous rappelle quand même que sur le vote de FIFA The Best, où déjà Sadio Mané n'était pas sur le podium, quand vous consultiez les votes pays par pays et personne par personne, vous voyez que les Africains... dans leur immense majorité, n'avaient pas
c'est
donné
vrai.
Leur non, voix à Sadio Mané.
C'est hallucinant. Donc, c'est-à-dire que vous voudriez un lobby africain qui vote unanimement pour Sadio Mané. Et là, vous me diriez, qu'est-ce que c'est que ça
Gilles,
il y a une concertation, etc.
Ce que je suis
donc
en train de vous dire, c'est que c'est
là.
Pas du... On peut dire qu'il y a des mauvaises raisons de ne pas voter Sadio Mané, on est d'accord, mais... dire que c'est du racisme comme vous l'avez fait, je trouve que vous exagérez.
J'ai dit textuellement que la couleur de peau était désormais un critère. Bon,
discrimination, tout ce que vous voulez.
Je crois que là, on peut critiquer le prix, mais
vous allez trop loin, Gilles.
Alors, il y a des hommes qui ont été récompensés, mais vous le savez que désormais, un ballon d'or existe aussi pour... le sexe féminin est non plus faible, n'est-ce pas? Le sexe féminin. Eh bien, des filles étaient candidates, il y en avait 10. Et écoutons le résultat du deuxième ballon d'or remis à la successeur de Anna Hegerberg, qui n'était pas cette fois dans la liste. Il faut dire qu'elle n'avait pas participé à la Coupe du Monde avec son équipe de Norvège.
The woman ballon d'or France football is Megan Rapinoe.
Bonsoir, everyone. I'm so sad and sorry I can't make it there tonight. I can't believe I'm actually the one winning it in this field. It's been such an incredible year, and women's football is lucky to have every single one of these amazing players every year. And it pushes us, and it pushes me to be the best player that I can. I'll do my best to get back there next year.
Voilà, Megan Rapinoe qui n'a pas pu se déplacer à Paris, qui donc répondait via un petit enregistrement et qui remerciait bien tous ceux qui l'avaient élue à ce poste. Megan Rapinoe, Naïm Moniol, il n'y avait pas véritablement de concurrente.
Non, parce que Jennifer Morozan n'ayant pas fait la Coupe du Monde, je pense que Rapinoe, elle avait un boulevard devant elle. C'est aujourd'hui, en plus d'avoir gagné, d'être une bonne joueuse et d'avoir gagné la Coupe du Monde, elle est aussi représentative
une
du
personnalité.
Foot féminin. C'est aussi une personnalité. Elle est très active, elle est aujourd'hui le visage de l'essor du foot féminin et un petit peu par voie de fait de la cause des femmes. Bon, même si j'aime pas tout mélanger, malheureusement on est quand même un peu dedans. Donc voilà.
Elle porte effectivement aux États-Unis le combat des femmes qui veulent être payées autant que les hommes.
Il n'y avait pas réellement de.
Pour ce qui est des footballeuses.
C'est un beau vainqueur, hein, très bien.
Gilles.
Ce qui est très intéressant sur
ses cheveux roses.
C'est donc elle a été uniquement élue et c'est très bien sur la Coupe du Monde. Puisqu'en club, elle n'a pas joué, quasiment pas existé.
C'est un peu la limite du football féminin aussi actuellement, c'est-à-dire qu'en dehors de certaines équipes qu'on connaît, il y a après la compétition mondiale.
Oui, mais par exemple, il y a la Ligue des Champions,
il y a des
équipes.
Le foot
donc là, ça veut dire que on vote exclusivement sur la Coupe du Monde. Et je trouve ça très bien. Mais ce serait bien aussi que chez les hommes, ce soit la même chose. À ce moment-là,
donc
les années Coupe du Monde, seule la Coupe
année.
Du Monde prime. Voilà, c'est ce que je voudrais, moi.
Non, moi je suis d'accord que c'est un beau vainqueur et surtout je pense que c'est une footballeuse qui a fait correspondre un moment sportif, la Coupe du Monde féminin, avec un moment plus politique. C'est les suites de MeToo, c'est aussi l'opposition à certaines sorties du président Trump. Enfin, ouais. Elle a fait correspondre ça parfaitement. Les deux étaient un petit peu confondus en une seule personne et avec beaucoup de malheureusement, mais c'est ce qui donne aussi dans un monde où l'image est tout, ce qui fait la force de cette championne et qui lui donne autant d'impact. Après, en tant que footballeuse sur un plan purement sportif, je pense que Marosane, que tu as citée, est une plus grande footballeuse, mais elle n'a pas joué la Coupe du Monde, elle a eu une Coupe du Monde perturbée par les blessures, donc il n'y avait effectivement pas de concurrence.
Alejandro, elle est devenue aussi un peu un porte-drapeau finalement du football féminin, Megan Rapinoe, parce que on la reconnaît, on la connaît, et c'est vrai qu'on se souvient de ses prestations sur un terrain de foot.
Absolument, elle a su allier la dimension sportive, qui est incontestable, à la dimension médiatique, qui aujourd'hui est devenue très importante. Donc elle n'avait pas vraiment de rivales. Quand on voit, c'est vrai, Lucy Bronze, l'anglaise, termine deuxième, où Alex Morgan finit troisième, mais on sent bien qu'il n'y a pas eu match.
Lucie Bronze est en argent ce soir. Hein.
Oui, voilà, absolument.
Alejandro.
Alors, il y a eu aussi deux autres prix remis ce soir, notamment un au gardien de but, puisque même si, par exemple, Alisson Becker, le Brésilien de Liverpool, est classé septième dans la liste du Ballon d'Or d'une façon générale, un trophée pour la première fois a été remis. C'est le trophée Lev Yashin, du nom de ce très grand gardien de but des années 50-60.
Oui, Ballon d'Or 63.
Voilà, 1963. Il a joué 20 ans au Dynamo Moscou.
L'araignée noire.
Et Didier Drogba nous rappelait durant la cérémonie qu'il a arrêté 150 pénalties dans sa carrière. En tout cas, son petit-fils même était là pour plus de prestige. Lev Yashin est mort en 1990. Écoutons donc qui est le premier lauréat de ce trophée Lev Yashin.
Le lauréat est
Mr. Alisson Becker.
Alisson Becker.
Thank you.
Merci et bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense honneur pour moi d'être ici devant vous, parmi ces joueurs exceptionnels, ces joueurs, ces joueuses remarquables, ces grands buteurs, ces grands attaquants. C'est vrai que vous nous rendez la vie difficile et nous devons travailler dur pour essayer de vous contrer. Je tiens à remercier ma famille, mon épouse. Et je tiens à remercier Dieu et je tiens à vous remercier à toutes et tous.
Alisson Becker qui fait allusion à tous ces attaquants qui martyrisent les gardiens de but. Il a largement contribué au succès de Liverpool parce que on se souvient de Liverpool une année avant en finale de la Ligue des Champions, Gilles, avec ce gardien qui avait fait deux erreurs face au Real Madrid qui avait été terrible.
Alors lui réunit tous les critères, hein, c'est-à-dire qu'il est...
Première saison avec Liverpool, il vient de la Roma et il arrive du Brésil de... l'international de Porto Alegre.
Club et sélection, il gagne tout. Il est fair play.
Il gagne tout au bout d'une saison, c'est ce que je veux dire.
Je trouve qu'il aurait peut-être pu être classé un peu mieux au Ballon d'Or général. Et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir créé cette spécificité des gardiens de but, parce que les gardiens de but, depuis Yashin, ne pouvaient plus. Buffon avait été battu en 2006 par son coéquipier Cannavaro. Neuer ne l'a jamais eu.
En 2014, voilà, on s'attendait à Neuer.
Les plus grands gardiens du monde ne pouvaient plus. Donc, il faut créer un trophée à part, en plus du nom d'Yashin, la légende. Magnifique.
Alejandro.
Le Brésil n'est pas réputé pour ses gardiens. Exactement. Mais là, il y a deux Brésiliens sur le podium. Ederson, le gardien de Manchester City, est troisième. Entre les deux, il y a Ter Stegen, le gardien de Barcelone.
Il brille dans un pays où le poste de gardien de but est quand même pas une spécialité, parce que les Anglais, ils ont quand même un peu de mal là-dedans. Donc, il a en plus fédéré avec lui les supporters anglais. Et surtout, il y a une vraie concurrence cette année. C'est pas, il y a un gardien très bon et puis des autres moyens. Il est en concurrence avec Ter Stegen, qui est pour moi le meilleur gardien du monde, mais c'est un avis personnel. Oblak n'est pas très loin non plus, Ederson n'est pas très loin. Donc il y avait une vraie concurrence cette année au poste de gardien de but, Alisson, et c'est comme Rapinoe.
Onana, les Camerounais, septième.
Ouais, c'est un beau vainqueur. Ouais.
Il était là, escorté par Nabil Djellit, hein, qui l'a accompagné tout au long de cette journée.
Il s'est occupé de l'Ajax, oui, absolument.
En plus, le Brésil n'était pas vraiment fameux, justement, pour ses gardiens. Là, on en a deux actuellement qui brillent. Mais c'est vrai que jusqu'à Taffarel, qui est d'ailleurs l'entraîneur des gardiens dans l'équipe nationale.
Il y a eu Dida, qui était un bon gardien, quand même. Mais oui, oui. C'est vrai qu'il y avait souvent des
creux. Mais ça avait commencé avec Taffarel, en fait.
Voilà, mais il y avait souvent des creux générationnels au Brésil. Parfois un bon gardien et ensuite deux autres un peu moins bons sur les Coupes du Monde suivantes. Et
puis il y avait là, un originellement, en 1950, qui avait porté la croix de la défaite
jusqu'à sa mort,
Maracana. Exactement.
Oui, absolument. Mais là, je trouve effectivement qu'à force de monter en gamme et devenir plus jeune en Europe, on arrive à avoir un peu plus de densité à ce poste.
Il a 27 ans,
Alisson Becker. Alisson Becker, il symbolise tout ça, je pense.
Ouais.
Et l'Argentine, que Alejandro en même temps, elle est un peu en retard. Elle a repris du retard alors qu'elle avait beaucoup d'avance sur le Brésil à ce poste, je trouve.
C'est vrai. Bon, on dit souvent que Messi, le problème, c'est l'équipe d'Argentine, mais il faut savoir que Messi a la malchance de tomber à une époque où il y avait une crise générale au sein de la Fédération argentine avec des changements des sélectionneurs permanents et tout ça.
Dernier des prix remis ce soir dans cette soirée assez rythmée, nous a dit Antoine tout à l'heure, Antoine Grenier, eh bien c'était le trophée Raymond Kopa. Alors qui pour succéder, c'est les meilleurs espoirs du football, les jeunes, ceux qui un jour peut-être gagneront un ballon d'or, eh bien qui pour succéder à ce palmarès à Kylian Mbappé qui ne pouvait plus concourir parce qu'il aurait 21 ans avant le 31 décembre.
Et le vainqueur du trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, est attribué à Matthijs de Ligt.
Eh bien oui, pour commencer, je suis vraiment ravi d'être là ce soir. C'est un honneur, vous savez, d'être là, d'en arriver là avec tous ces joueurs fabuleux autour de moi. J'espère que la soirée sera très agréable pour vous. Merci, merci beaucoup Matthijs.
Matthijs de Ligt de l'équipe des Pays-Bas, Matthijs de Ligt qui est 15e hein, par ailleurs du général. Il joue avec, il jouait avec l'Ajax Amsterdam. C'est là qu'on l'a vu briller. Il était même capitaine de cette équipe à 20 ans et il est actuellement à la Juventus de Turin. Gilles,
vous me permettrez d'ajouter que pour essayer d'étouffer les polémiques naissantes et pour continuer sur les votes politiques, on a voulu récompenser l'Ajax à travers ce joueur. Donc c'est très bien, mais c'est pas le joueur qui est récompensé, c'est son club. Et encore une fois, j'ai pas de souci avec ça. L'Ajax a été un club qui nous a illuminés lors de la dernière campagne de Ligue des Champions. Mais voilà, on vote pour un club et pour voter pour ce club, on vote pour un joueur. Je trouve ça un tout petit peu bizarre.
Mais c'est bien que l'Ajax soit récompensé.
C'est très bien, mais c'est sûrement au titre des Pays-Bas.
Mais on aurait pu en avoir peut-être un ou deux dans le top 10 carrément, parce que si 2019 est l'année de Liverpool, c'est aussi
les votes des gens
les gens des fois ils comptent pas par club non plus, c'est pas une répartition, mais pour ce qui est de l'équipe des Pays-Bas, Virgil van Dijk la représente bien. Il y a aussi une récompense peut-être de l'équipe des Pays-Bas, de cette équipe de jeunes et de cette nouvelle génération
qu'on va voir à l'Euro finaliste de la Ligue des Nations. L'Ajax est là, il y a De Ligt, il y a De Jong, il y a Van de Beek, il y a toute une génération qui arrive, qui joue bien au football, qui rappelle aux plus anciens le grand Ajax, qui fait découvrir aux plus jeunes ce championnat très mineur qui est l'Eredivisie. C'est très bien. Moi, à titre personnel, j'aurais aimé en voir un ou deux dans le top 10, mais une fois de plus, c'est très personnel.
Oui, non, je suis d'accord. On a récompensé l'Ajax et il le mérite. Et je pense pas qu'il y ait lieu de polémiquer là-dessus.
L'Ajax qui continue à faire une belle campagne en Ligue des Champions. Hein, on les verra en tout cas au moins en 8e de finale. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Je vous le rappelle, la nouvelle de la soirée, si c'en est une, et si vous ne le savez pas encore, c'est que Lionel Messi a remporté son 6e Ballon d'Or ce soir. Merci messieurs d'avoir participé à cette soirée spéciale Ballon d'Or. Merci aussi à Marie-Amélie Mode qui était là ce soir pour m'aider à préparer l'émission. Laurent Salerno est revenu à la réalisation de cette émission. Merci à tous et on se retrouve demain pour Radio Foot International à l'heure normale à 16h10 en temps heure de Paris.